France Culture.
Physiquement,
La vie en noir.
Physiquement, je suis
une série documentaire de Sébastien Thème, réalisée par Yaël Mandelboum.
Je suis une femme noire, assez enveloppée, disons, avec un gros afro aussi. Donc, ce qu'on définirait comme une femme un peu pulpeuse.
J'ai des lunettes un peu rondes, j'ai un beau dégradé.
Je suis un homme cisgenre, grand.
Je suis plein de choses dans la vie.
Épisode 4. Affirmer son histoire. À la fin, il faut bien rentrer chez soi. Pas le chez-soi d'une adresse, mais celui de la mémoire. Ce lieu d'où tout part et qu'on passe parfois une vie entière à fuir. J'ai longtemps cru pouvoir vivre sans racines, qu'il suffisait d'écrire sa vie à la première personne, sans se soucier de ce qui venait avant. Mais on ne recommence jamais de zéro. Affirmer son histoire, c'est commencer par la regarder. Celle que l'on tait dans les familles, celle qui se cache derrière la colère, l'addiction, le déni, la honte. Ici, on parle de santé mentale, de mémoire, de création comme soin, d'écriture comme reprise de souffle, de droit aussi. Parce que se réparer, c'est parfois réclamer justice. Chacun et chacune à sa manière cherche à recoudre ce qui a été déchiré. Cet épisode, c'est un espace de reconstruction, un lieu où la parole ne se justifie plus, où l'on parle pour se rassembler, pas pour s'expliquer. Affirmer son histoire, ce n'est pas tourner la page. C'est apprendre à la lire, enfin, avec ses manques et ses failles.
I deserve a break from myself.
From despair.
Oh Lord, watch me. Oh Lord, wash me. Where am I supposed to go? Who am I? The demon of the inner child.
Uprooting, c'est une installation photo et vidéo que j'ai présentée au Nouveau Printemps de Toulouse qui traite beaucoup de l'errance et à la fois de à quel point on peut se sentir perdu et dans cette quête de soi, finalement, on arrive à s'enraciner dans des espaces qui n'étaient pas prévus et à rencontrer des gens qui nous ressemblent dans les moments les plus inattendus.
Il y a une phrase très belle dans le film où est dit « Je suis et l'enfant et le démon et je ne sais pas choisir entre les deux ». Comment t'as pensé à cette phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Et est-ce que tu comprends qu'elle touche profondément?
Moi, dans mon expérience personnelle, quand je parle de l'enfant intérieur, de inner child, c'est vraiment ma boussole.
André Atangana.
Je me resitue toujours à l'enfant qui est en moi.
Artiste.
Quand j'ai l'impression d'être perdu, de ne plus savoir qui je suis, et versus face au démon, à ce que j'ai pu appeler le démon dans cette musique, c'est tout ce que tu vas devenir en réaction de ce qu'on t'a fait, des projections qu'on a emmenées sur toi, c'est-à-dire à devenir cette personne. Pour moi, il y a ce truc d'être une personne noire, effectivement, quand tu grandis et qu'on nous élève, enfin mes parents, en tout cas moi personnellement, m'ont pas élevé à être un enfant, une personne noire ou un homme noir, ils m'ont élevé à être une personne d'origine camerounaise, issue de mon ethnie Ewondo-Béti, donc avec toutes les traditions et la culture ancestrale qui va avec, effectivement tu arrives dehors, on te dit que tu es noir. Et c'est essentiellement des personnes blanches qui pointe les autres populations comme noires. Enfin, ça limite un territoire pour se penser et se créer une identité. Et souvent, ça vient avec du racisme, de la xénophobie et qui développe souvent, en tout cas chez moi, qui ont pu développer des choses assez sombres ou des comportements en réaction à ça. Et je pense que c'est une mauvaise chose de se laisser guider, de se définir en fonction de nos traumas. Du racisme, de l'homophobie, de la xénophobie, ou tout simplement parce qu'il y a plein d'autres choses, que ce soit par mon éducation artistique aussi. Plein de fois, je me suis senti rejeté parce que j'ai une éducation danse contemporaine, une éducation plus académique. Et donc, le démon, je le nomme ça, je le nomme effectivement, parce qu'il va être de l'ordre du trauma, des projections limitantes qui vont ramener des frustrations et qui va nourrir quelque chose de sombre chez nous.
Déjà, étant petite, moi, mon rêve, c'était d'être danseuse étoile. Mais j'ai vite abandonné ce rêve parce que je me disais, mais en fait, il n'y a personne comme moi. J'ai pas le même corps, j'ai pas les mêmes pieds. Moi, je suis née à Valence, dans la Drôme. J'ai vécu mes premières années de vie. Puis ensuite, j'ai déménagé du coup en Isère. Et en fait, je faisais de la danse là-bas. Et j'étais la seule noire de ma classe de danse. Et en fait, quand après, plus tard, j'ai découvert la compagnie Alvin Ailey, que j'ai découvert les danseurs américains, que j'ai vu qu'il y avait des personnes noires, foncées, qui pouvaient danser, qui pouvaient aussi accéder à ce prestige-là, je me suis dit, ah ouais,
Stencia,
pourquoi c'est possible là-bas et pourquoi ce serait pas possible ici ?
Danseuse et créatrice du podcast Mental Health Radio.
Aujourd'hui, bon, alors, c'est important d'avoir un Guillaume Diop, mais à la fois un peu hypocrite de la part de l'Opéra de Paris, parce que, encore une fois, Guillaume Diop est métisse, est clair, il a les yeux bleus, donc il ressemble quand même à une personne blanche.
La première chose qui intéressait les autres chez moi, donc j'étais très grand, très tôt, depuis mon enfance, donc très vite à l'école, on me disait, il faut que tu sois basketteur, tu es très grand, ou après j'avais des facilités pour la danse, effectivement, il y avait ce côté de show, de divertissement, et en fait, il y a toujours eu une contradiction entre ce que les autres ont toujours perçu ou voulu pour mon corps, et moi, mes intentions et mes envies et mes goûts, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projections sur mon corps, notamment dans la danse et dans le mannequinat. Et effectivement, c'est ça qui m'a énormément poussé à m'émanciper de ces secteurs-là et à devenir moi-même créateur d'images et passer de l'autre côté de la caméra pour changer, pour proposer quelque chose de plus large que ce que la société autorisait en fait à mon corps. C'est-à-dire juste être fort, bestial, avec des attributs démesurés. Et oui, effectivement, dans la danse, c'était très présent à mon époque. Aujourd'hui, de moins en moins, en tout cas, ça se gomme. Mais à l'époque, c'était effectivement, oui, tu étais noir, il fallait être musclé, torse nu et le corps huilé.
Fin 2022, début 2023, à l'époque, justement, je travaillais avec Thomas Joly sur Starmania. Et en fait, j'avais enchaîné des années de tournée, donc avec Babydoll, puis Starmania. Mon corps était épuisé. Je me rappelle le jour où vraiment tout s'est écroulé, j'étais sur scène, à la scène musicale, et j'y arrivais plus. J'ai eu la sensation d'avoir couru toute ma vie et d'avoir fui quelque chose qui, en fait, était derrière moi et me suivait et me disait « Mais en fait, ça, je vais te rattraper. » Et quand c'est arrivé, je ne pouvais plus physiquement bouger. Et en plein spectacle, je suis partie à l'hôpital. Et en fait, il y a eu ce truc où il fallait que je m'arrête. Il fallait que j'arrête de courir. Il fallait que j'arrête de me mentir et de me voiler la face. Et honnêtement, je pense que la dépression, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée dans ma vie. Je suis contente de l'avoir vécu parce que ça a été dur, mais c'est ce qui m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Et il y a rien de mieux que de se voir, en fait. Le fait d'être en dépression, d'être à l'arrêt forcé, c'est se forcer à se voir et à se regarder en face et à voir tout ce qui va pas. Et il faut beaucoup de courage pour ça parce que ça fait très mal. J'ai été face à des personnes qui n'ont pas compris et qui m'ont beaucoup jugée à l'époque. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé à parler de santé mentale et je me suis dit, en fait, je vais donner la parole à des personnes qui ont vécu exactement la même chose que moi pour faire comprendre que ça arrive à tout le monde, en fait.
Et pour juger comment ?
Durement. On m'a dit à l'époque que je faisais de la comédie, que ça n'existe pas, que voilà, tous les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes en dépression. Mais j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus dur pour moi, parce qu'aussi, je suis une femme noire et qu'on ne s'attend pas d'une femme noire à ce qu'elle craque, à ce qu'elle fasse une dépression. En fait, je pense que quand on vit dans un monde où on est constamment observé, regardé par des blancs, en fait, tu te sens toujours comme... Tu dois toujours te justifier. Justifier ton existence. Justifier que tu n'es pas un danger. Justifier que tu es intelligente, que tu es intelligent, que tu mérites ta place. Que tu mérites toi aussi de réussir. Que tu mérites toi aussi qu'on te regarde avec respect, qu'on te traite avec respect et considération. Et ça, c'est épuisant parce que du coup, ça veut dire que tous les jours de ta vie, tu dois prouver, travailler plus, faire plus, montrer plus pour qu'on te donne 30% de ce qu'on donne à quelqu'un, les 30% d'une personne blanche. Et ça fait aussi partie de la charge mentale, en fait. La fatigue de courir, de devoir prouver, etc. Et c'est drôle parce que il y a beaucoup de personnes qui retournent dans leur pays d'origine et qui se disent, mais en fait, on vit plus ça, en fait. On vit plus ça. Parce que il y a d'autres problématiques, bien sûr. Mais ce truc de devoir prouver, de devoir, cette lutte continuelle contre le racisme, du plus, expressif au plus insidieux, bah, en fait, on le vit plus parce que, parce qu'on est avec des personnes qui nous ressemblent et qui nous demandent pas de prouver autant, quoi. Aya.
En fait, on te demande de renoncer à une partie de toi, à une certaine partie de ta culture, de l'effacer, mais on continue de te traiter comme un noir, mais on veut pas que tu sois trop noir. Donc il y a, un peu cette sensation de devoir être quelqu'un que tu n'es pas. Et en plus, il y a quand même aussi ce rapport entre les noirs et les blancs, ce passé colonial qui est complètement... qu'on ne doit pas du tout en parler. C'est souvent un peu comme si ça existait, limite que dans nos têtes. Enfin, quand on parle des répercussions, des dégâts liés à tout ça, ce qui nous emmène quand même à ce que je m'appelle André et à ce que je sois chrétien catholique. Enfin, tout ça... mes ancêtres ne l'étaient pas, donc c'est quand même, je suis clairement le fruit de cette colonisation. Et quand tu tentes d'en parler, en tout cas de parler de ces événements avec la gravité qui vient avec, souvent on te demande d'être plus léger, d'effacer ça, de te fondre dans la masse, d'être dans l'après. Donc on te demande d'être dans l'après, mais sans qu'il y ait cette réparation. Et donc de supporter tout ça, ça te demande un certain nombre de choses, et c'est à ce moment-là souvent les addictions et l'alcool, en tout cas moi, dans mon cas, est arrivé, c'est-à-dire de comment supporter tout ça, comment être cette personne qu'on attend de moi, même quand on demande de nier ou de me détacher d'une partie de moi, de mon histoire, de mon humanité, pour être dans l'après. Et je pense que la drogue, comme plein d'autres addictions, facilite souvent ce mensonge où on renie certaines de ses émotions pour performer ce que la société attend de nous. Donc nous, généralement, les personnes afrodescendantes, on attend à ce qu'on soit des personnes un peu moins sauvages, donc Astérix, être moins africains sur les bords. Donc il y a même dans cette vision de qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être construit, être adulte, être mature, c'est toujours selon un schéma occidental. Donc moi, effectivement, l'alcool est venu faussement m'aider à performer ce personnage qu'on attendait de moi, c'est-à-dire à la fois, après, il faut ajouter toute la masculinité toxique où tu ne peux pas exprimer tes émotions. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de couches qui s'ajoutent à ça, où on t'empêche d'être toi-même à d'autres dimensions, c'est-à-dire même juste être un homme. Tu ne peux pas parler de tes émotions, tu dois répondre à des codes hétéronormés. Donc voilà, il y avait tous ces problèmes qui sont vraiment liés à l'Occident, et effectivement, l'alcool permet de se renier et d'être un peu plus ce qu'on attend de toi, mais... finalement, il y a un piège dans tout ça, c'est que ça développe quelque chose, ça ne fait que empirer le saignement des blessures et des traumas et de la frustration, et à ce moment-là commence l'autodestruction. Donc moi, il y a un an, j'ai décidé d'arrêter de boire. Il n'y a pas eu d'accident particulier, en plus, hein. C'est vrai qu'on parle de ces sujets, c'est toujours très grave, on s'imagine qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu une cirrhose ou un truc, et c'était assez... Un matin, je me suis levé, j'aime bien dire que mes ancêtres m'ont visité dans le sommeil, et un matin, je me suis levé, j'ai dit c'est terminé. Et à partir de là, ça a vraiment été de comprendre, ok, qui je suis sans l'alcool, qui je suis quand je suis tout le temps moi-même. Et de, à partir de ce moment-là, qui j'ai envie de devenir, quels sont mes goûts, dans quel espace j'ai envie d'évoluer, dans quel espace c'est difficile, dans quel espace je n'ai plus envie d'être, de plus me forcer, en fait, de plus m'oublier, de me faire passer moi et qui je suis toujours en premier, et ne pas me diminuer ou m'annuler ou me diluer dans un liquide à cause d'une situation, à cause d'un trauma. C'est vraiment d'affronter. Et en fait, dans ça, c'est marrant parce que ça a l'air très difficile, mais c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile d'être soi-même, c'est tellement moins traumatisant, les choses sont moins graves finalement parce qu'on ne les repousse pas, on ne les éloigne pas, donc elles n'ont pas le temps de grossir, de devenir des monstres. Donc finalement, c'est beaucoup plus Disney que ça d'être sobre. Les gens ont l'impression qu'il y a moins de fun, mais il y a tellement plus de fun d'être sobre.
Je pense que la chose commune aux personnes racisées, notamment aux personnes afrodescendantes, sur les questions de santé mentale, c'est la résilience. Et c'est on m'a pas appris à parler. On m'a pas appris que je pouvais parler. On m'a pas appris que je pouvais aller mal. Mais on m'a appris à me battre, à faire plus, à travailler plus, à me créer ma place et à avancer quoi qu'il arrive. Parce que, bah, en fait, c'est comme ça et que j'ai pas le choix et que si j'arrête, ben, rien ne se passera pour moi. Ce qui est vrai, en vrai. Ce qui est vrai, c'est une réalité. Si on ne fait rien, rien ne se passe pour nous. Mais on a le droit aussi de s'arrêter. On a le droit de dire que ça va pas. Et on a le droit, surtout, de recevoir des mains tendues. On a le droit de prendre soin de soi. On a le droit d'aller en thérapie. Je sais que ce truc aussi de santé mentale, c'était et c'est encore beaucoup stigmatisé comme un truc de blanc, de... Mais voilà, tu peux pas aller en thérapie, c'est un truc de blanc. On a grandi avec ce genre de pensée limitante de si tu prends soin de soi, c'est que t'es faible, ou c'est que c'est un truc de blanc, nous on fait pas ça chez nous. Ou c'est que t'es envoûté, on t'a jeté un truc, tu vois, la sorcellerie, etc. On va beaucoup associer ça à quelque chose de spirituel, mystique. Alors que ça a rien à voir.
Mes parents, ils sont arrivés en France dans les années 90. Ils sont restés sans papier pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années même. Ma mère, elle a été gouvernante à Versailles dans des maisons de personnes, d'avocats, etc. pendant très longtemps. Mon père était maçon pendant très longtemps. Et ils ont été sans papier très longtemps et ils vivaient dans des endroits où il n'y avait que des Cap-Verdiens.
Kelly va s'émédo.
Et quand ils ont déménagé à Persan, ils ont tout perdu à ce niveau-là.
Élève avocate.
Donc on a tout perdu
réalisatrice.
De contact, de liens humains, familiaux liés au Cap-Vert. Moi, en fait, quand j'ai grandi en tant qu'enfant, le Cap-Vert, c'était un lointain pays. C'était pas essentiel, c'était la nourriture. Voilà, c'était le fait que tous les dimanches, je mangeais la nourriture du Cap-Vert. De temps en temps, écouter quelques musiques en allant à des fêtes, parce que mon père adore la fête. Et donc, en allant à un baptême, en allant à un mariage. Voilà, c'était très lointain. Quand mes parents, ma mère appelait sa mère ou appelait son père, je leur parlais au téléphone. Et ma grand-mère me disait tout le temps, donc en Cap-Verdien, venez avant que je meure. Et pourtant, elle était assez jeune, donc bon, on se disait, voilà, quoi, c'est une phrase d'ancien, voilà. Et malheureusement, en 2020, donc en pleine période du Covid, ma grand-mère décède. Et là, ça a été un peu un choc parce que on s'est demandé tout de suite de pourquoi est-ce qu'on n'y est pas allé avant. Donc on se retrouve là avec ma mère, mon frère, ma sœur, ma tante, la sœur de ma mère et ses enfants, un peu bloqués. On ne connaît plus très bien les traditions parce que le Cap-Vert a des grandes traditions funéraires très importantes, très codées, vraiment millimétrées. Chaque jour, on doit faire quelque chose. Et là, on ne sait un peu rien. Moi, il y a quelque chose qui m'a bouleversée. Il y a une prière que ma grand-mère faisait beaucoup, que mon grand-père faisait beaucoup et qu'on n'a pas fait. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal parce qu'on ne l'a pas fait parce qu'on ne la connaissait pas. Ça a été très violent pour moi, ça a été très violent pour ma mère, ça a été très violent pour ma tante. Et elles sont tombées un peu dans une grosse dépression. Et moi, je me dis, il faut faire quelque chose. Et à ce moment, moi, je suis déjà très sensibilisée sur la question de la santé mentale. C'est pas du tout un sujet. Aucun problème, santé mentale, s'il n'y a pas de problème. Mes parents, bien sûr, beaucoup moins. Voilà. Beaucoup, beaucoup moins. Donc, j'en parle à ma mère et je découvre un collectif qui s'appelle Psy et Noir. C'est pas juste, il faut aller voir un psy, sortons du tabou, d'aller voir des psys. C'est beaucoup plus complexe. Et moi, je faisais de la recherche à l'école. Donc, je fais de la recherche. J'ai aucun problème à lire des trucs en psychologie, en psychiatrie. Je me documente. J'ai la chance de parler anglais. Donc, je lis des trucs en anglais, des trucs américains et parti. Et donc là, je découvre les traumatismes transgénérationnels. Et là, ça a eu un pic dans ma tête et je me suis dit, mais tout s'explique. Tout s'explique, notamment toutes les problématiques que j'ai eues avec mes parents, ces distances émotionnelles de mon père, les difficultés du couple de mes parents, cette famille dysfonctionnelle, le fait que faire famille, être enfant, il y a quelque chose qui ne va pas depuis toujours et qu'on ne comprend pas pourquoi, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et donc, j'entreprends l'écriture de ce documentaire, Chers ancêtres, où l'objectif, c'est de parler de l'histoire du Cap-Vert, mais avec un prisme de la santé mentale, en se disant, qu'est-ce que l'histoire du Cap-Vert nous a laissé comme traumatisme transgénérationnel, comment on s'en libère, et aussi quel héritage nous a laissé cette histoire du Cap-Vert, et comment là on en fait notre étendard, on en fait notre victoire. Comment on se réapproprie de cette histoire en se disant, je ne peux pas être soignée comme une personne occidentale en termes de santé mentale, ce n'est pas possible. Parce que en tant que petite fille, arrière-petite fille d'esclave, de colonisée, mon rapport à la santé mentale ne sera pas la même chose qu'une personne qui est française. Ça ne sera pas le cas, ce n'est pas grave, il faut l'accepter et surtout trouver des solutions, des moyens pour s'en libérer. Et c'est là où je me suis dit, il faut faire un film, un documentaire, parce que les gens ils vont se sensibiliser, comprendre et entreprendre eux-mêmes leur propre chemin. Voilà, c'est comme ça que Chers Ancêtres est né.
Il y a des médecins qui soignent le corps et d'autres qui soignent l'âme. Est-ce que les Noirs ont une âme ? Et est-ce que aussi cette question-là est dans la psychiatrie et dans la psychanalyse, au fond, la question de la santé mentale pour les Noirs
Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se faire et qui se font depuis un moment déjà. Je pense au travail de la psychologue Raki Kassi,
Miguel Schema,
ou à d'autres. Je dirais cela
étudiant
dit,
en médecine et auteur.
J'ai des résistances un peu fortes, mais faudrait que je fasse ma psychanalyse peut-être. Mais j'ai des résistances un peu fortes au discours relatif à le discours contemporain sur la santé mentale, parce qu'il fait trop souvent l'économie des conditions matérielles d'existence des individus et comment la santé mentale, comme la santé physique, est le produit de quel job nous avons, où est-ce que nous habitons, quelles sont nos amitiés, est-ce qu'on mange pas, est-ce qu'on vit dans la rue, est-ce qu'on vit pas dans la rue, est-ce qu'on a des papiers ou pas. Même par exemple, dans la santé mentale pour les patients allophones, enfin, les patients allophones, c'est les patients ne maîtrisant pas le français. Ce sont des patients pour lesquels on ne fait pas assez. Depuis les années 80 en France, il y a des associations comme l'ISM Interprétariat qui sont en partenariat avec, je pense, tous les hôpitaux de Parisiens, même d'Île-de-France en partenariat avec ISM Interprétariat. Il y a d'autres associations pour d'autres régions de France. Je pense il y a beaucoup d'hôpitaux marseillais qui sont aussi en partenariat. Et donc, les hôpitaux ont des tarifs préférentiels pour cela. Et force est de constater que pour ces patients-là, dans des contextes, on ne fait pas recours à l'interprète professionnel. Et l'interprète professionnel peut se faire physiquement, mais aussi par téléphone. Je ne saurais vous dire le nombre de fois où, devant un patient qui ne parle pas français, je vois un médecin qui dit « mal où ?» en pointant différentes zones du corps, pensant déjà que parler plus fort, c'est se faire comprendre, ce qui n'est jamais le cas. Je pense que pour ces patients-là qui viennent avec des problèmes organiques, physiques, etc., le monde médical crée aussi en fait des enjeux de santé mentale, en fait, d'angoisse d'aller à l'hôpital, de pas se faire comprendre, de dire en fait je vais peut-être pas y aller parce que ça sert à rien, je vais peut-être pas parler de mes troubles de santé mentale parce que il faut déjà qu'on soigne mon asthme, qu'on soigne etc. Et je pense l'enjeu de la traduction est pour moi un enjeu primordial dans les services hospitaliers. D'autant que il y a un rapport de 2023 de l'Inspection générale des affaires sociales qui dit que la France est en retard comparé aux pays européens dans le recours à l'interprétariat professionnel, que les solutions sont là en fait. Le milieu hospitalier, c'est un service d'angoisse et c'est aussi, c'est ce que je réponds à ta question un peu de traverse, mais comment le monde médical crée des pathologies psy, en fait, d'angoisse, de mal-être, de dépression. Qu'est-ce que c'est de se faire soigner, de n'être jamais compris et de que le système de santé soit le lieu où tu sois le plus incompris. Voilà.
Lorsqu'il est question d'immigration, en fait, on parle du corps noir comme d'un corps qu'il faut expulser, d'un corps qu'il faut mettre à distance, qu'il faut canaliser, qu'il faut compter aussi. Donc je dirais que la question noire, on est encore à un point de cellule, à l'état cellulaire en fait. On n'aborde même pas cette question-là dans une forme qui serait fidèle à la complexité dans laquelle cette société française est.
Badrouddine Saïd Abdallah, journaliste, documentariste et éditeur.
Pour la première fois de ma vie, j'accompagne mes parents aux Comores, mon autre pays pour ainsi dire. Avec un billet d'avion à 1 400 € minimum l'unité, impossible d'aller là-bas pour rien. Mes parents, après 23 ans de mariage et d'enfants, s'en vont célébrer leur grand mariage. une coutume comorienne ancestrale, mais toujours courue et respectée. Pour moi, Badrou, leur fils aîné, j'ai le pressentiment que ce voyage marquera une étape.
Oui, Le Grand Mariage, c'est un film que j'avais fait à l'époque. En plus, c'était l'année d'ailleurs où j'avais été naturalisé français, c'est marrant, que j'avais tourné ce film. Et qui racontait à la fois une tradition qui existe aux Comores depuis des siècles, et aussi de tout ce fossé qui est impossible à combler depuis la Courneuve, qui est aussi considérée et perçue aussi comme la sixième île des Comores, parce que c'est une ville, la Courneuve, où la communauté comorienne en Île-de-France est assez importante et a réussi à recréer aussi une forme de vie, de communauté, comme à Marseille, ou comme aussi à La Réunion, ou d'ailleurs. Et c'est aussi raconter tout ça, parce que c'est aussi ça la réalité de la France. La France s'est toujours construite et se construira toujours à travers nos histoires à nous qui sommes issus de ces territoires qu'on considère comme lointains, alors que l'histoire a fait que on est liés. Il y a tout un travail qui a été fait par des universitaires, par des cinéastes, mais nos parents aussi ont travaillé cette question noire. Ils l'ont éprouvée par leur trajectoire. Ils ont décidé que leur vie pouvait être meilleure en venant ici. La vie de leurs enfants, puis de leurs petits-enfants, pourrait être meilleure en venant ici. Et nous, on est aussi traversés par ces questions-là. On est aussi traversés par ça, et on est aussi, de l'autre côté, traversés par une société française ou européenne qui se tourne de plus en plus vers l'extrême droite, politiquement, qui médiatiquement, historiquement et même culturellement, ne veut pas aborder de front des questions liées au passé colonial de la France, liées aux présences noires au pluriel au sein des territoires français.
Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome méditerranéen. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais il y a un chapitre que tu as titré « L'échelle de la douleur et la non-prise en charge des personnes racisées ».
Ouais. Moi, la douleur, c'est quelque chose qui me passionne, parce qu'il n'y a aucun moyen objectif de mesurer la douleur d'un patient.
Miguel Schéma.
Donc ce sont que sur les dires du patient qu'on peut savoir quel est le niveau de la douleur et la traiter en conséquence. Et donc, dans l'acceptation de la douleur ou dans sa négation, il n'y a que le social qui est en jeu. C'est parce qu'on perçoit le patient comme menteur, profiteur, etc., un parasite, ou inversement parce qu'on voilà, on lui fait confiance, qu'on va soit invalider, soit accepter la douleur. Et donc, quand, au cours de mes études, j'entendais de syndrome méditerranéen, qui est une croyance, un biais raciste qui est né à l'époque coloniale, qui laisse croire que les personnes maghrébines auraient une propension à exagérer leur douleur. Donc, en 1907, il y a un docteur qui invente la sinistrose, qui est une maladie qui était inscrite dans les livres de psychiatrie, qui concernait d'abord, en fait, l'invalidation des douleurs des ouvriers qui souffraient d'accidents du travail, en disant qu'ils exagéraient leur douleur. Et très rapidement, cette entité nosologique s'est concentrée sur les travailleurs nord-africains. Donc, sinistrose, syndrome méditerranéen, mais aussi syndrome nord-africain. S'agissant des personnes noires, il y a un très beau livre de l'historienne Delphine Périté-Courty qui s'appelle « Corps noir et médecin blanc » qui montre que l'histoire de la médecine est traversée par l'idée de plein de clichés sur les personnes noires. L'un des clichés étant qu'elles auraient une résistance accrue à la douleur, soit des peaux plus épaisses, etc. etc. Et Paul Broca, par exemple, qui est un médecin hyper connu, dont l'une, il y a une aire du cerveau qui porte son nom quand même, écrivait que les Noirs avaient une sensibilité différente des autres, et il cite les travaux d'un de ses collègues médecins colonial, qui dit qu'ils ont opéré une négresse, et au niveau de la mâchoire, sans anesthésie, et que le lendemain, cette négresse chantait comme un oiseau. C'est ça l'histoire de la médecine en France. Et croire que cette histoire ne relève que du passé et ne se réactualise pas dans les services hospitaliers, c'est un peu naïf. D'autant qu'il y a des études britanniques et américaines qui montrent, par exemple, que à situation clinique équivalente, les personnes noires ont un accès différencié, ont 50% de chances en moins d'avoir accès à un antidouleur. Une étude récente faite en France en 2024, a montré qu'à situation clinique équivalente, des cas des femmes d'une part, mais aussi des personnes noires, étaient considérés comme moins graves. Donc ils ont fait des testings, etc. Et donc la situation clinique est la même. Et donc il faut comprendre que la manière dont on soigne les individus est aussi le produit de d'un certain type de représentation raciste, et que ces représentations sont opérantes qu'on le veuille ou non. Et la question, c'est pas est-ce qu'on est traversé par ces représentations, c'est comment on fait pour les neutraliser et soigner à même tous les individus.
Sur la question de la parentalité,
ouais.
Moi, je me suis confronté aussi au fait d'être parent et noir, parce que voilà, c'est aussi en fait dans le rapport à l'hôpital.
Badrouddine Saïd Abdallah.
Lorsque j'accompagnais ma femme dans les rendez-vous à l'hôpital ou même, et aussi au moment des naissances de nos enfants, il y avait une forme de colère, de rage, mais aussi en même temps de désarroi en fait, par rapport au traitement qui était fait à l'hôpital et à la manière de parler, tout en sachant en plus que l'hôpital est un service public, donc il fait partie de nos biens communs. Mais il y a cette violence aussi de l'institution hospitalière par rapport au corps noir de mon enfant qui arrive, et aussi de celui de ma femme qui va accoucher, et aussi pour moi en tant que père, qui fait que, oui, je pense que ça a été un moment hyper traumatique, en fait. Je pense que c'est important aussi de le partager parce qu'en fait, il y a aucune pensée, il n'y a aucun travail, en fait. Il n'y a pas tellement d'accompagnement à cet endroit-là, tout en sachant aussi comment on est fébrile au moment où on est là pour accoucher, on est là pour mettre au monde un enfant.
Est-ce que tu veux nous raconter un moment, une anecdote, que tu nous la décrives, et voilà, et toutes les intrications qui sont dedans?
Il y a des trucs hyper violents que j'ai peut-être pas forcément envie de partager. Mais je pourrais commencer déjà par parler de comment, alors qu'on est des adultes qui arrivons dans un rendez-vous à l'hôpital, comment on nous parle comme on parle à un enfant. Comment on nous parle comme si on était dans des endroits où on n'est pas capable de mettre des mots sur des douleurs, lorsqu'on met ces mots-là, d'ailleurs, on nous dit qu'on exagère. On nous dit qu'on en fait trop, ou qu'on fait perdre du temps au médecin ou à la sage-femme. Il y a cette violence-là, en fait, qui est très difficile, en fait, à encaisser, finalement.
Est-ce que toi, tu as été soit victime, soit témoin de racisme médical ?
Ouais, il y a un cas qui m'a marqué. J'étais en stage dans un service d'urgence à Paris. Il y a une patiente maghrébine qui arrive pour une douleur à la mâchoire un peu atypique. Elle n'est pas tombée, elle s'est pas cognée, il n'y a pas de contexte de chute, quoi, de trauma. Le chef demande un ECG qui permet d'étudier l'activité cardiaque. Cette chef va voir une autre patiente et le CG arrive à une autre chef. Donc sur cet ECG, il y a les signes clairs d'une crise cardiaque. Et la chef dit bon, non, on va attendre la tropo, et en plus on n'est pas sûr. De toute façon, elle a pas de douleur thoracique, ce qui est atypique, c'est vrai, mais voilà. Et elle dit, de toute façon, ça doit être un syndrome méditerranéen. Fort heureusement, l'autre chef est sorti, elle a vu le CG, elle a contacté, voilà, tout s'est bien passé pour cette patiente. Mais ce qui est impressionnant, c'est que devant des signes objectifs, les préjugés raciaux sont encore opérants. Bon, ça, c'est le cas le plus grave, mais il y a d'autres cas que j'ai observés et que d'autres chercheurs ont observé depuis vraiment des décennies, en fait. Franz Fanon, c'est un moment, avait déjà écrit sur le syndrome nord-africain, l'avait critiqué, avait dit à l'hôpital, tout maghrébin est perçu comme un malade imaginaire. Personnellement, je dirais qu'il y aurait une imbrication classe-race. Par exemple, tu vois, je vais voir un ORL, j'ai pris un rendez-vous d'un médecin dans le 16e, et là j'arrive et la secrétaire me regarde et fait AME. AME, c'est la couverture de santé qu'ont les personnes étrangères en situation irrégulière étant depuis plus de 3 mois sur le territoire. Et la CMU, c'est pour les personnes précaires ayant un certain niveau. Voilà. Donc moi, je la regarde et je lui dis j'ai mon attestation de droit, j'ai pas ma carte vitale. Et là, elle me regarde avec un regard d'empathie, mais immense, et fait « Ils vous ont pas donné la carte vitale quand vous êtes arrivé ?» Et moi, je dis « Quand je suis arrivé, j'ai juste perdu ma carte vitale. Bon, visiblement, elle a cru que j'ai fait la Méditerranée à la nage et que j'ai décidé d'aller dans le 16e. Pour... Mais qu'il y a un truc de... Voilà. Et je pense aussi que très rapidement dans la consultation, quand je dis que je suis étudiant en médecine, il y a un truc de gentillesse et de... qui s'installe et qui fait que je, j'ai peut-être été préservé de tel ou tel préjugé ou... En fait, quand je dis... Peut-être, hein, c'est une hypothèse, mais que étant moi-même dans le champ, si je dis que je ressens un symptôme, peut-être qu'on sera moins prédisposé à dire que j'imagine ou que j'exagère.
Ce que je disais aussi par rapport au moment où j'ai eu mes enfants, c'est que je revoyais mes parents. Et du coup, je me remettais dans leur tête sur comment ils ont pu faire à ce moment-là.
Comment tes parents ont fait, venant d'ailleurs, n'étant pas français, vivant le racisme, comment ils ont fait aussi pour vous mettre au monde, vous s'occuper de vous et être dans un état de force pour pouvoir gérer tout ça, au fond. C'est ça que tu veux dire ?
Oui, c'est ça. C'est comment ils ont fait, comment même, jusqu'à aujourd'hui, je me dis même, parce que voilà, j'ai beau être adulte maintenant, mais comment ils surmontent ça ?
Il a essayé pendant longtemps de nous faire connaître un peu l'histoire du Cap-Vert, parce que lui, il l'a apprise, mais par les Portugais. Donc avec un biais très particulier, parce que l'indépendance du Cap-Vert, c'est en 1975, et mon père est né en 1970, ma mère en 1965. Donc ils ont grandi avec l'école coloniale, l'apprentissage colonial. Mais l'histoire du Cap-Vert, c'est un petit pays, un pays insulaire.
Qui lui va s'aimer.
Un pays insulaire qui a été découvert non pas par les Portugais, comme ce que mon père pensait, mais par des tribus et des peuples sénégalais, notamment un peuple qui s'est évadé parce qu'il a été. Il a un royaume qui a été retourné au Sénégal et qui s'est évadé sur l'île la plus proche, Cap-Vert, et donc qui a commencé à la peupler, mais qui a été peuplé de manière dense et grande par le Portugal via. Via les esclaves récupérés en Afrique, notamment en Guinée, au Bénin, via la traite négrière. Les Portugais ont été les premiers à entrer dans cette traite négrière. Donc ils ont récupéré plein d'esclaves en Guinée, au Bénin, et l'ont mis au Cap-Vert. Il y avait une moitié des esclaves arrivés au Cap-Vert qui étaient envoyés au Brésil, en Colombie, aux États-Unis, et l'autre qui restait pour organiser cette société négrière au Cap-Vert. Et donc, il y a eu cette population, là, et ça, par ce biais-là des traumatismes transgénérationnels, j'en ai vu le premier traumatisme. Le traumatisme de tous les Cap-Verdiens, une profonde tristesse qu'on retrouve chez les Cap-Verdiens, et de déracinement perpétuel. Parce que le Cap-Vert est bien sûr notre terre, mais en fait, notre terre, elle est aussi ailleurs, elle est certainement en Guinée, elle est certainement au Bénin, on ne sait pas trop, peut-être au Sénégal, on ne sait pas. Et donc pendant des siècles, le Cap-Vert tourne comme ça. Le Cap-Vert est une plaque tournante de la traite négrière. On y emmène des esclaves. Ceux qui sont les plus érudits, ceux qui comprennent le plus rapidement le portugais, sont envoyés plutôt dans les Antilles, plutôt en Colombie. Alors que ceux qui sont un peu plus costauds, un peu plus forts, restent au Cap-Vert pour gérer les autres esclaves. Donc voilà, ça c'est l'histoire le début de l'histoire du Cap-Vert. Elle commence comme ça, donc dans la violence. Et ensuite... l'abolition de l'esclavage, mais qui est transformée très rapidement par la colonisation, toujours des Portugais. Et donc là, le même système s'opère, avec notamment le fait de maîtriser certaines populations par la famine. La famine, c'est un moment clé de l'histoire du Cap-Vert, et plein de famines successives. Et aujourd'hui encore, il y a des grands-parents qui nous parlent de cette famine avec beaucoup de tremblements, de peur. Et après la libération du Cap-Vert, il y a eu une longue période, comme dans beaucoup de pays africains d'ailleurs, post-coloniale, où on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'on est. On est plus colonisation portugaise, mais les Portugais sont encore là. Bon, mon père a grandi avec les Portugais en tant que colon, présent au Cap-Vert, violent, très violent. Toutes les histoires que mon père me raconte de l'histoire du Cap-Vert est toujours violente. Toujours des coups, toujours de la blessure, des insultes et du mépris. Beaucoup de rabaissement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la communauté capverdienne et certainement dans d'autres. Beaucoup de tristesse, bien sûr, mais de sentiment d'être méprisé. Et nous, quand mes parents arrivent en France et moi, quand je nais en France, je nais avec cette histoire-là. Je nais avec cette histoire-là et je me construis en tant que femme noire comme ça. avec ces bases-là.
Je me suis rendu compte, autour de l'âge de 13-14 ans, en fait, que j'étais étranger. Quand bien même, voilà, j'avais grandi, enfin, j'étais à l'école française, comme tous les autres autour de moi, mais je me suis rendu compte, en fait, que le fait d'avoir un passeport qui n'est pas français avait une incidence dans mon quotidien et pouvait me compliquer certaines choses, notamment quand je voyageais, parce que il fallait à chaque fois que je demande un visa pour en amont pour pouvoir me déplacer. Et aussi, jusqu'à l'âge de 22 ans, avant d'être naturalisé français, je faisais la queue à la préfecture, à la fois pour moi, pour mon père aussi, mais aussi pour ma mère, pour pouvoir renouveler la carte de séjour. Et c'est vrai que cette préfecture de Bobigny, elle représente pour moi tout ce qu'on peut... Voilà, il y a eu tout un truc qui a été dit sur la phobie administrative, mais je vais être drama et dire qu'il y a peut-être un traumatisme aussi administratif qui a été subi par rapport à la préfecture, par rapport au fait d'être étranger, par rapport au fait aussi de détenir une nationalité en plus qui est souvent pointée du doigt, notamment lorsque l'on aborde la question de l'île de Mayotte, qui est aujourd'hui resté un département français et que médiatiquement, en fait, les Comoriens n'existent pas. Les Comoriens, ce sont des envahisseurs. Ce sont les envahisseurs qui vont à Mayotte. Alors que si on creuse un peu plus, on peut savoir que depuis des siècles, ces îles-là, Mayotte, Anjouan, Moéli et Ngazidja sont liées familialement, sont liées culturellement, historiquement. Jusqu'en 95, un Comorien, il pouvait se déplacer et aller à Mayotte sans problème pour aller rendre visite à sa famille. Mais à partir de 95, il y a un visa meurtrier qui a été créé, qui s'appelle le visa Balladur, qui a fait que des Kwassa-Kwassa ont précipité jusqu'aujourd'hui des dizaines de milliers de morts comoriens.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les Kwassa-Kwassa ?
Ce sont des bateaux de pêche. Mais un jour, notre président de la République actuel a eu la bonne idée de faire une blague à ce propos en disant que le Kwassa-Kwassa pêche peu, mais il ramène du comorien. C'est le bateau qui, dans lequel on peut retrouver des familles, on peut retrouver des nourrissons, des femmes malades qui traversent les 70 km qui séparent l'île d'Anjouan de Mayotte pour aller se soigner dans un hôpital ou pour aller tout simplement changer de vie. C'est donc le Kwassa-Kwassa, il ramène toutes ces histoires en lui et aussi tous ces drames et toutes ces morts. On parle à juste titre de la mer Méditerranée qui est un cimetière marin pour des dizaines de milliers de corps principalement africains, mais aussi le bras de mer qui sépare Anjouan de Mayotte est meurtrier tout simplement depuis que le visa Balladur existe. Sans parler aussi de ces Comoriens aussi qui sont expulsés, traqués, pourchassés à Mayotte, à La Réunion, mais aussi ici en France métropolitaine. Donc j'appartiens aussi à ça, j'appartiens aussi à cette histoire. Et pour revenir, pardon, à la préfecture de Bobigny, ce dont je me souviens, c'est assez étonnant. Je me souviens aussi de moments aussi joyeux, dans le sens où j'avais mes potes, je prenais ça aussi comme une soirée comme une autre. Ce que je faisais, c'est que je prenais le tram à 23h, pour pouvoir avoir une place et un ticket le lendemain matin, j'attendais toute la nuit. Et donc j'avais mes potes qui venaient, qui ramenaient à manger, et on passait la soirée ensemble, jusqu'à ce que la préfecture ouvre à 8h, et qu'on ait la chance d'avoir un ticket pour pouvoir avoir son renouvellement et être au guichet. Parce que sinon, ceux qui arrivaient par exemple à 6h du matin ou 7h, c'était... ou même avant, hein, 5h, même 5h du matin, c'était foutu. Donc la technique, c'était de partir avant, à 23h, pour être sûr d'avoir sa place à la préfecture.
Et est-ce que ton envie de faire du droit, c'est aussi peut-être pour réparer ça, pour essayer de trouver de la justice, faire bouger aussi cette société ? Est-ce que toi, tu te sens investi de cette mission-là ?
Le droit, c'est dans le fond de mon cœur, c'est vraiment lié à cette histoire-là. Mais c'est lié aussi à une histoire beaucoup plus contemporaine de mes parents qui arrivent, qui, comme je disais, arrivent sans papier. Ma mère n'a jamais eu trop de difficultés avec la police, n'a jamais eu trop de problèmes liés à ça. Mon père, beaucoup plus. Mon père a eu des problèmes liés au fait d'être un homme noir en France, tout simplement. D'être accusé à tort pour un vol, d'être accusé à tort parce que le seul élément qu'on a, c'est un homme noir, voilà. On ne sait pas trop autre chose. Il avait un pantalon rouge. Mon père, il me raconte beaucoup cette histoire d'une femme qui disait avoir été agressée et qui disait qu'elle avait été agressée par un homme noir. Et un jour, il arrive, ils étaient tous, donc mon père et des amis à lui, des gens du Cap-Vert, donc qui, comme je vous disais, ils étaient tous en communauté dans un bâtiment. Et là, la police arrive et les prend tous en disant c'est forcément un d'eux, lequel on ne sait pas, on le prendra au hasard. Voilà. Il y avait certainement un homme noir qui avait agressé cette femme, mais ce n'était pas ces hommes noirs-là. Sauf qu'à cette époque-là, c'était pas compréhensible, c'était pas audible de dire c'était un homme noir, mais pas cela. Voilà. Parce que tous les hommes noirs étaient les mêmes. Donc mon père a vécu beaucoup de violence comme ça, beaucoup de violence dans son travail aussi. Ça a réveillé aussi beaucoup de blessures. Son travail, ça n'en parle pas beaucoup, mais mon père travaille dans le bâtiment avec une forte communauté portugaise et avec le reste de cette histoire-là, et dont on ne parle pas très facilement. Mais ça a été toujours un peu violent pour mon père de se dire, quand il est devenu chef de chantier, pendant près d'un an, systématiquement, quand un partenaire venait, il demandait à mon père, sans le serrer la main, « Bonjour, je cherche le chef. » Et mon père lui disait « Oui, c'est moi, bonjour. » Il tendait la main, on lui disait « Non, le chef de chantier. » Et ça, c'est quelque chose que mon père m'a beaucoup raconté, qui m'a beaucoup heurtée. Et du côté de ma mère, le lien avec le droit, c'est plus le fait d'avoir été utilisée, d'avoir été instrumentalisée comme un objet, comme une esclave, d'avoir été longtemps une maîtresse de maison, une gouvernante, sans papier, on donnait un peu d'argent, on savait pas trop combien, pas trop pourquoi, comment elle ferait pour la retraite, comment elle ferait pour ses enfants, le fait que du jour au lendemain on puisse annuler un contrat en disant oh, ben, on n'est pas là, ou de la prendre par-ci, de la prendre par-là. Elle est tombée sur beaucoup de personnes qui ont été très très sympathiques, qui ont été très très bonnes avec elle, qui ont été humains avec elle, mais beaucoup d'autres qui ne l'ont pas été. Notamment, il y a une histoire qu'elle me raconte souvent, mais par exemple, un jour mon frère tombe à l'école, donc comme toute mère, elle se dit bah, je suis désolée madame, je pars. Et là, son employeur, du coup, lui dit « Ah non, 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 vous devez vous occuper de mes enfants. Donc vous restez vous occuper de mes enfants. » Et ma mère lui dit « Mais c'est pas possible. Je vais m'occuper de mon enfant qui est malade. Je dois partir. » Et là, ma mère, pour la première fois, et ça, c'est une de ses grandes fiertés, elle prend les clés et elle lui dit « Bah, j'arrête. » Et en fait, ça, c'était parce que c'était une accumulation de ces manipulations faites par des employeurs. Donc ça explique pourquoi je pense que je me suis orientée plutôt vers le droit du travail, vers le droit de la fonction publique. Donc ouais. C'est plus l'histoire contemporaine de mes parents même qui m'a amenée au droit.
Qu'est-ce que c'est d'être un étudiant en médecine noire ? Je ne saurais pas répondre, mais en tout cas, je pense que le fait d'être noir et d'être bi m'a prédisposé à être sensible à certaines questions. Et du coup, voir l'enseignement médical et la pratique médicale sous un autre jour. Dans un pays comme la France, où le discours majoritaire sur les problèmes dans le système de santé, c'est un discours sur le financement, et qu'en fait, on suppose que le seul principe explicatif de toutes les maltraitances du système de santé, c'est son financement. En fait, il y avait d'autres choses. Plein d'autres chercheurs ont pris en charge ces questions depuis des décennies maintenant. Le sexisme, l'homophobie, la classe sociale, le racisme, etc. qui pouvaient expliquer les maltraitances. Et moi, ma question, c'était toujours, et si tout allait bien? Et si on avait le bon nombre de soignants, le bon nombre de lits? Voilà, tous les services étaient bien dotés, est-ce qu'il n'y aurait pas de maltraitance? En fait, il y a d'autres choses. Et le monde médical n'est pas en dehors du monde social. Ce qui est une croyance commune à la fois dans le monde médical mais aussi à l'extérieur. Le monde médical serait un peu exempt, quoi, et que parce qu'on a la volonté de soigner les individus, parce qu'il y a un truc un peu de passion, de se donner à corps perdu dans des études compliquées, et qu'on a fait le serment d'Hippocrate, il n'y a pas de problème. Et je pense que le fait d'être noir et d'avoir pensé le racisme, sociologiquement, m'a fait comprendre que il suffit pas de prêter serment pour soigner tout le monde de la même manière, et c'est quand même être assez naïf de croire que un système de domination joue sur la volonté, en fait. On peut maltraiter en ayant toutes les bonnes volontés du monde.
Bah, le conseil que je donne à ma petite sœur, voilà, à chaque fois, c'est de trouver des espaces. Quand j'étais à Henri IV, quand j'étais à l'UNS, bref, dans tous ces espaces-là, ce qui m'a permis de continuer et de ne pas m'arrêter, c'est d'avoir trouvé des espaces où il y a des gens comme moi, des gens qui me ressemblent plus ou moins. Et j'étais pas très exigeante à ce moment-là. J'étais pas très exigeante. Et c'est là où justement GetUp a été un vrai espace. GetUp, l'association GetUp, c'est une association qui œuvre à plus de justice sociale, notamment auprès des quartiers populaires, des habitants des quartiers populaires. Je rentre à GetUp parce que je me dis, j'ai envie de parler de violence policière, parce que le meurtre d'Adama Traoré reste dans ma tête et a été à un moment clé de ma construction en tant que femme, parce que c'est à 16 ans, c'est quand je commence à comprendre. Mais aussi, c'était pas que pour aider les autres, c'était vraiment pour m'aider moi, pour être dans un espace où les gens me comprennent, les gens m'entendent, où je peux être écoutée, où mes compétences sont valorisées, parce que quand j'étais à GetUp, voilà, c'était pas juste des distributions alimentaires, c'était pas ça. C'était fallait faire de la communication, fallait faire du droit, fallait faire des décryptages, des analyses institutionnelles. Et ça m'a permis, en fait, petit à petit, de prendre confiance en moi, mais aussi de savoir mieux s'entourer. Et ça, j'ai pris du temps à le comprendre, d'accepter qu'on ne peut pas et on ne doit pas être ami avec tout le monde, ce n'est pas grave, et qu'il faut toujours se protéger. Et notamment dans la sphère amicale, dans la sphère amoureuse, dans la sphère relationnelle, il faut savoir se protéger. Et par exemple, moi, je me suis mis en couple avec quelqu'un qui venait de Persan, enfin qui vient de Persan, je crois que c'est avec cette personne, il vient de Persan. Et c'était une bouffée d'air frais. C'est une bouffée d'air frais parce qu'on parlait les mêmes codes et pourtant il est blanc. Et pourtant on parlait de la même manière, on avait les mêmes références, on s'exprimait de la même manière, j'avais pas peur, j'avais pas honte d'être qui j'étais. Et progressivement, notamment via cette relation-là, puis après via une autre relation plutôt entourée que de personnes racisées. Et après, je me suis dit non, c'est pas la solution. C'est vraiment les valeurs, la morale, la déconstruction. Donc voilà, mes conseils, c'est de s'entourer institutionnellement et s'entourer amicalement, correctement, et de pas avoir peur de sortir de notre vie certaines personnes qui sont racistes envers nous. Voilà, tout simplement.
C'est très dur à décrire un regard. Et c'est très dur de parler du racisme d'un regard. Ça passe rapidement pour le parano. Il y a une très belle phrase d'un journaliste franco-haïtien qui s'appelle Jean-Claude Charles, qui dit qu'on ne peut pas, il n'y a pas mot pour décrire le racisme d'un regard, et le racisme d'un regard, ça prend les tripes. Et donc tu sens déjà que tu fais problème dans l'espace public, qu'il y a une surprise dans ta présence, que ce soit au lycée, que ce soit dans les fêtes d'anniversaire, que ce soit à l'aumônerie, etc., etc. Et il y a un truc de... En fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a un truc de mon corps, de moi, que je dois modifier? Parce que c'est la première question qu'on se pose quand on sent qu'on fait problème. Est-ce que c'est quelque chose que je fais? Par exemple, tu vois, je fais mon anniversaire dans un restaurant, la réservation est à mon nom, tous mes amis arrivent, la plupart étaient blancs, et moi, quand j'arrive, on me dit « Bonjour, vous allez quelque part ?» Alors que je rentre dans le restaurant, il n'y a pas d'autre endroit que le restaurant. Et on a posé des questions qu'aux membres de ma famille et à mes autres, mes amis racisés. Donc on sent qu'il y a un truc de... on se sent bloqué. Moi, je disais, je dirais ça aussi. De base, on voit qu'on pose problème. On se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Et en fait, quand on commence à comprendre pourquoi on fait problème, tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas de nous dont il est question. En fait, c'est plus de la perception que l'individu a de nous. Et donc, on n'a rien à faire. Un truc aussi. Même si je me protège, je ne vais jamais en jogging, par exemple. Je ne sors jamais en jogging. Parce qu'il y a un truc de éviter la police, ne pas avoir l'air d'un certain type de noir, hein. Ce qui est horrible, mais il y a un truc de comment on s'habille, comment on fait attention, comment, etc., etc. Mais en même temps, il y a, même quand on croit avoir trouvé un peu la solution, ça nous revient brutalement au visage. Voilà.
Mais comment est-ce que vos parents blancs vivent vos prises de position? Cette question, qui m'est souvent posée par des personnes blanches, montre leur difficulté à croire en la possibilité même que mes parents partagent mes convictions et soutiennent mon travail militant antiraciste. Pourtant, ils et elles ont accepté de se remettre en question, en étant notamment le premier auditoire de mes tirades anti-France-Afrique et de moult autres sorties ternissant leurs héros et héroïnes de gauche, Mitterrand dans ce cas. Mes parents n'ont toutefois pas attendu que je monte au créneau pour questionner la vision ethnocentriste qui prévaut dans les sociétés occidentales. Dès mon entrée en primaire, ma mère a fait en sorte que je comprenne le sens de l'expression « carte politique ». En affichant dans le couloir de la maison une affiche qui représentait le monde à partir de la projection de Peters, où les continents sont représentés selon leur superficie réelle. Soudain, l'Afrique apparaissait comme un continent immense et majestueux face à une Europe de toute petite taille. C'est aussi ma mère qui, en 2005, a relu et corrigé mon mémoire sur les enjeux du traitement de la question coloniale dans les médias et qui m'a soufflé l'idée d'aller à ma soutenance avec un manuel scolaire de son enfance vantant les bienfaits de la colonisation. Ce sont mes parents qui m'ont montré que les personnes blanches peuvent interagir avec les personnes noires hors des scripts hérités de la suprématie blanche, y compris quand ça les froisse. En 2014, lorsque je commence à promouvoir la non-mixité pour les femmes noires, ma mère me questionne sur ce qu'elle perçoit comme une discrimination inversée. Elle aurait aimé assister à une table ronde que j'allais animer et qui ne lui était pas ouverte. Je n'oublierai jamais le mélange d'incompréhension et de déception dans son regard. Mais même moi qui suis ta mère, je ne peux pas venir. C'est avec elle que j'ai appris à développer mes arguments. Les féministes de sa génération avaient ressenti la nécessité de s'organiser sans les hommes. Nous aussi avions besoin de nous retrouver en non-mixité, sans les blancs et les blanches. Comme tout le monde, mes parents avaient leurs angles morts. Mais elles n'ont jamais nié ma négrité. J'ai eu des poupées noires, j'ai été encouragée à fréquenter des personnes noires et surtout, elles ont su faire preuve d'humilité à propos de leur ignorance blanche. Je les ai vues déstabilisées, heurtées, perdues face à mon activisme et pourtant tout faire pour essayer de comprendre mes besoins et mon point de vue. C'est bien la preuve que, à force de travail, d'honnêteté et d'amour, il est possible de devenir activement antiraciste. Marie-Claude et René l'ont fait. Pourquoi pas vous ? Vivre libre. Amandine Gay.
C'était Affirmer son histoire avec André Atangana, Stencia, Miguel Chema, Badrouddine Saïd Abdallah et Kelly Vaz-Semedo. Un grand merci à Shanice Mendy, Yande Diouf et Clément Postek. Lecture, Astrid Bahia. Prise de son, Tahar Bouklifa, Élise Le, Julien Girard. Mixage, Nadège Antonini. Documentation d'actualité, Anne-Lise Signoret, Eva Canet-Parot. Documentation musicale, Antoine Villoz, Nathalie Rouvillain, Samy Messaoud. Chargé de programme, Marivona Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. La vie en noir, une série documentaire de Sébastien Thème, réalisée par Yaël Mandelbaum. You had white skin and I had black. Is it black? No, it's brown. Is it up? No, it's up. No, it's down. So different, now we're the same. So different, now we're the same. So different, now we're the same. You had eyes, and I did not. We were so different, now we're the same. We were so different in the beginning, now we're the same. That's what they say. Is that what they say? Is that what they say? That we're the same. Now we're the same. You had a lot of money. Money, 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 money. You had a lot of money, 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 money. And I had none. We were so different, now we're the same. You came from a happy family. Happy, 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 happy family. Ah, da da da. I think you get it. You're so different from me. We're so the same. You're so different from me. Different from me. I am a black key. You are a white key. That's okay. We can make chords. Different, we can still make chords. Ooh, we're so melodic. You can be mine, I could be yours. Different backgrounds, we sing different songs, we walk on different roads. My hands are covered, yours are bare. I wear white gloves, your skin is fair. Translation of a race and erase the race and embrace. We were so different, now we're the same. Sleep, little babies, close your eyes. You're in mother's arms now. My mothers were your mothers. Your mothers were my mothers. My mothers were your mothers. My mothers were your mothers. She did not raise me, she raised thee. We're so different. We're the same. Hey. in the soul is clear.